Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Shalom Alechem, bonjour à tous et bonjour, bonjour Astrid.
Bonjour.
Astrid qui est de retour, oui. Et donc qui va nous faire entendre des chansons. Et moi je continue donc ma série sur Pessah, Pessah en yiddish. Nous allons lire aujourd'hui un texte qui n'est pas écrit en yiddish, ni traduit du yiddish, puisqu'il s'agit d'un texte de Henry Heine. Henry Heine, l'auteur allemand, qui était l'auteur préféré de ma maman, mais aussi l'auteur préféré de beaucoup de juifs, même s'il s'est lui-même converti au christianisme, pour des raisons surtout, économiques, pour avoir une place dans la société. Hein, c'était encore l'époque où il fallait être... Il fallait ne pas être juif pour avoir une place dans la société. Donc, Heine est né en 1800 et c'est un poète immense qui a écrit beaucoup, beaucoup de poésie, et en particulier la célèbre Lorelei, l'histoire de cette femme qui chante. Enfin, c'est une sirène peut-être, sirène, hein, c'est une sirène qui chante sur le Rhin et qui attire les navigateurs et qui vont se noyer. Je la cite parce que c'est une chanson qui était très célèbre, très très chantée par tout le monde, puisque c'est devenu une chanson. Ben lui a écrit le poème et c'est devenu une chanson. Et c'est à l'époque nazie, comme on ne pouvait pas effacer tout à fait cette poésie, on a décidé qu'elle était folklorique, elle était d'un auteur inconnu, et donc on a enlevé le nom de Heine, mais bien sûr qu'on lui a redonné après. Voilà. Alors Henry Heine donc avait cette position complexe donc de juif. Il a eu une éducation tout à fait juive dans sa famille, et puis il s'est converti à l'âge de 25 ans. Et il a gardé quand même un attachement au judaïsme. Et en fait, je me dis qu'il est assez finalement proche de Proust, qui lui aussi avait un côté de sa famille tout à fait juif et qui avait des contacts avec le judaïsme. Mais son père étant catholique, il a été baptisé, il a été élevé plutôt dans une ambiance catholique. Voilà donc un peu ces personnages doubles, avec une double culture, avec aussi un sentiment très complexe que Heine a exprimé de façon souvent ironique. Hein. Il a écrit beaucoup de textes où il se moque à la fois des chrétiens, des juifs, de tout le monde. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre maman l'aimait, puisqu'elle aimait beaucoup l'humour. Mmh. Voilà. Et donc, il a écrit un texte qui s'appelle Le Rabbin de Barerach. De Barerach, oui, Barerach étant une petite ville en Allemagne. Alors, toute l'œuvre de Heine est bien sûr en allemand. Hein. Même s'il a vécu longtemps en France.
Oui, c'est ça, il a émigré en France.
Ouais. Il a émigré en France. Et il est mort en France. Il a vécu plus que les dernières années de sa vie, longtemps en France. Mais il n'a jamais écrit en français. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il a écrit dans des journaux, mais son œuvre, une grande œuvre poétique surtout, est en allemand. Alors ici, il s'agit d'un fragment, on peut dire, d'un essai, d'une œuvre, d'un début d'une œuvre qu'il a écrite et dont le manuscrit a brûlé, puisqu'il était chez sa mère, et là, il a brûlé. Et lui-même dit... que Heine écrit le 21 juillet 1840 à Julius Kamp. Ce tableau des mœurs du Moyen-Âge date d'une quinzaine d'années, donc il l'aurait écrit en 1825. Je ne donne que l'exposition du livre qui a été détruit par un incendie chez ma mère, peut-être pour mon bien. Car dans la suite apparaissaient les idées les plus hérétiques qui auraient fait scandale aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens. Mmh. Mais là, donc finalement, c'est un court fragment, un court texte, mais fort intéressant. C'est bien pour ça que je vous le lis, parce que ça concerne Pessah. Voilà, donc je vais lire ce texte en français, bien sûr. Donc oui, pour dire, excusez-moi, que c'est donc dans un livre qui s'appelle « Écrit juif » aux éditions du Cendre, et tout est traduit en français. Au débouché de la plaine du Rhin, là où les rives du fleuve perdent leur mine souriante, où les montagnes et les rochers, avec leurs châteaux en ruine à l'aspect fantastique, ont des attitudes menaçantes et font paraître une grave et sauvage majesté, c'est là qu'on découvre, comme une effrayante image du passé légendaire, la sombre et antique ville de Barerach. La grande persécution des Juifs avait commencé avec les croisades et exercé sa plus cruelle fureur vers le milieu du XIVe siècle, après la terrible épidémie de peste dont on rendait les Juifs responsables, comme de toutes les calamités publiques, en les accusant d'avoir appelé la colère divine et empoisonné les fontaines avec le concours des lépreux. La populace exaspérée et surtout les hordes des flagellants, hommes et femmes qui parcouraient minus la région du Rhin et toute l'Allemagne du Sud en se donnant le fouet par pénitence et en chantant des hymnes délirants en l'honneur de la Sainte Vierge, massacraient alors les Juifs par milliers ou les mettaient à la torture ou leur imposaient le baptême. Une autre accusation qui, depuis le début du Moyen-Âge jusqu'à la fin du siècle dernier, a coûté aux Juifs bien du sang et des larmes, est l'absurde légende répétée à satiété dans les chroniques et les récits hagiographiques qui les montre dérobant des hosties consacrées pour en tirer du sang en les perçant de leurs poignards ou en égorgeant des enfants chrétiens parce qu'il leur fallait du sang pour l'office nocturne de leur fête de Pessah. Les Juifs, déjà détestés pour leur foi, leur richesse et leur registre de créances, étaient au jour de cette fête à la discrétion de leurs ennemis. Il était aisé de les perdre en répandant le bruit d'un de ces meurtres ou en introduisant secrètement un cadavre d'enfant dans une de ces maisons maudites. Après quoi, on surprenait la famille juive en prière, il y avait massacre, pillage, baptême, ainsi que des miracles accomplis par l'enfant mort, que l'Église finissait par canoniser comme ce saint Werner, dont l'abbaye magnifique à Oberwesel est de nos jours une des plus belles ruines de l'âge gothique. Voilà, donc là, Heine pose un petit peu le décor, avec, comme vous pouvez le remarquer, une excellente connaissance de l'histoire juive, et en particulier de cette histoire des croisades et des meurtres juifs, et aussi de l'accusation de meurtre rituel, hein, ce qu'on appelle en yiddish « Bibeldam », l'accusation de sang. Voilà, donc on va écouter une musique, et puis ensuite je vais continuer cette lecture.
Ensuite, alors, j'ai un disque très intéressant, très bizarre, américain, qui s'appelle « Songs my boob should have taught me. Les chansons que ma grand-mère aurait dû m'apprendre, m'enseigner. Et il y a une longue introduction qui explique en anglais, qui explique pourquoi est-ce que sa grand-mère ne lui a pas enseigné ces chansons. Parce que c'est déjà le problème de l'assimilation. Elle prend celle de la grand-mère. Connaissait très bien tout ce répertoire, elle le chantait pour elle-même ou pour des amis, mais pas pour sa petite fille. Elle pensait que sa petite fille devait être une petite américaine parfaite et elle ne lui a pas appris. Mais il faut croire que, comme toujours, entre ce qu'on pense transmettre et ce qu'on transmet, il y a un gap, un grand écart. Eh bien, elle a retrouvé tout ce répertoire, cette Laurie Kane, et en a fait un disque. Alors, elle a, pour ceux, réuni la fine fleur du yiddish américain, des noms que vous connaissez peut-être parce que je les cite souvent, Michael Alpert, que j'admire beaucoup, et Henry Shapiro. Les autres sont un petit peu moins connus, mais d'autant plus que c'est un disque qui date un petit peu. Michael Alpert est tout jeune, là, sur la photo, et aujourd'hui, là, bien dans les 70, 75 ans. Et il est toujours aussi formidable. Il danse, il chante, il joue du violon, et il est très agréable. Il connaît tout le répertoire, n'est-ce pas, aussi en français, en anglais.
Moi, je l'ai entendu chanter une interminable chanson en yiddish à une université d'été de Varsovie, où il a tout d'un coup débarqué et où il a chanté une chanson hassidique avec toutes les lettres de l'alphabet hébraïque.
Ah, oui.
Donc, il y avait 26 strophes.
Ouais. Tout par cœur, bien sûr.
Tout par cœur,
oui.
Absolument.
Non, il est tellement féru de ça qu'il s'intéresse au dialecte, comment on prononçait en Bessarabie, comment on prononçait en Galicie, etc. Il est vraiment un grand spécialiste. Alors, il chante sur l'une de l'autre des chansons. Alors, celle que je voulais entendre, c'est Der Becher, donc le verre, la timbale, de vin en l'occurrence. C'est pas une chanson spécifiquement pour Shabbat. bien pour Pessard, pardon, bien qu'on la chante aussi, c'est à l'ode du fait de boire, c'est une ode au fait de boire et au fait de boire du vin. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je suppose, grâce à Michael Alpert, il y a 8 strophes et pour la transition entre chaque strophe, pour la transition entre chaque strophe, ils ont pris des mélodies klezmer connues, donc des danses connues, intégrées très, de manière très virtuose. Et après, ça reprend la mélodie simple de Der Becher. Et chaque fois, à nouveau, une autre danse klezmer et à nouveau la nouvelle strophe. C'est vraiment intéressant et très, très savant, on va dire. Donc, Der Becher dans ce disque américain.
Soll so sein, gieß an den Becher mit Wein. Bim bam, bim bam, bim 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 bam, bim bam, bim bam, bim bam bam bam, bim bam, bim bam, bim bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam bam bam. Von dem dorsigen Becher erklang's, als ich schön und getrunken, mein Seide, alle Bewegung, bim bam, rarara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, bam, rarara, bim bam, rarara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, bam, bam. Von dem Taten jeder Becher gekommen zu mir. Bim bam, tarara, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bam bam, bim bam, tarara, bim bam, bam bam, bim bam, bim bam, bim bam, bam bam. Lechaim will ich trinken vor dem Kind alle Jid, wo smutzi sich da mit der Welt kein nur mich. Bim bam, tarara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, 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 bim bam. Vom Becher, aroma, bochus, bim bam, tarara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, 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 bim bam, tarara, bim bam, 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 bim bam, bim bam, bim bam, bam, bam. kreuz Mal mal geht im Becher das Liedl is over voice Bim bam, tarara bim bam 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 Bim bam, bim bam, bim bam 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 Bim bam, tarara bim bam 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 Bim bam, bim bam, bim bam bam bam
Joyeuse, ouais. Qui va très bien avec Pessah.
Tout à fait, on entend beaucoup la voix de Michael Alpert. Bah, bim bam, bim bam.
Alors, voilà, donc là nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la Pâques, enfin Pessah, le céder. Sitôt la nuit tombée, l'épouse allume les lampes et couvre la table d'une nappe au milieu de laquelle sont placés trois pa'azim recouverts eux-mêmes d'une serviette qui supporte six petites tasses contenant des aliments symboliques. Un œuf, de la laitue, du réfort, un os de mouton et une pâte brune faite avec des raisins secs, de la cannelle et des noix. À cette table s'assied le père de famille avec ses parents et compagnons. Il leur fait la lecture d'un livre merveilleux appelé Agadé. Alors c'est la Haggadah bien sûr. Alors est-ce que c'est la prononciation yiddish? Agadé, oui peut-être. Extraordinaire mélange de légendes anciennes, de miracles arrivés en Égypte, de récits curieux, de discussions, de prières et d'hymnes. Un grand souper a lieu au milieu de la fête et pendant la lecture, on goûte au mets symbolique, on mange un morceau de pa'azim et on boit quatre gobelets de vin. Cette fête nocturne a un caractère de mélancolie sereine, de sérieux enjoué, de mystère et de légende, et la mélopée traditionnelle de la Haggadah, avec les réponses du cœur des auditeurs, a un accent qui saisit, berce et anime à la fois, de telle sorte que même les Juifs qui ont quitté la foi de leur père à la poursuite des joies du monde étranger ont le cœur profondément troublé quand ils viennent à entendre le vieux chant qu'ils connaissent bien de la Pessah. Voilà, donc vous avez vraiment la position de ces Juifs assimilés qui sont quand même dans la nostalgie de leur enfance et de ces chants. Le deuxième gobelet versé, les visages et les voix s'éclaircissaient de plus en plus et le rabbin, ayant saisi l'un des pa'azim, le levait avec un salut joyeux en lisant les paroles de l'Haggadah. « Vois, c'est le mets dont se nourrirent nos pères en Égypte. Quiconque a faim, qu'il se présente et il sera nourri. » Quiconque est triste, qu'il se présente et partage notre joie. Cette année, nous célébrons la fête ici, mais l'an prochain au pays d'Israël. Cette année, nous sommes encore en servitude, mais l'an prochain, nous serons les fils de la liberté. À ce moment-là, la porte centrée s'ouvrit, livrant passage à deux hommes pâles et de haute stature. L'un d'eux prit la parole. « La paix soit avec vous, nous sommes des co-religionnaires en voyage et désirons fêter Pessah en votre compagnie. » Le rabbin répondit avec un empressement aimable, « La paix soit avec vous, prenez place auprès de moi. » Les étrangers s'étant assis, il poursuivit sa lecture. Il en était à raconter comment Rabbi Josué, Rabbi Eliezer, Rabbi Assaria, Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon restèrent une fois à Bnei Brak, alors ici il écrit Bona Brak, toute la nuit à parler de l'exode d'Égypte jusqu'au matin où leurs élèves vinrent les prévenir qu'il faisait grand jour et qu'on lisait déjà la prière à la synagogue. Comme Sarah, sa femme, l'écoutait attentivement et ne le quittait pas des yeux, elle aperçut tout à coup l'horreur se peindre sur ses traits. Le sang lui montait au visage et ses yeux lançaient des étincelles. Mais presque au même moment, il reprit son expression aimable. Elle eut peur comme elle n'avait jamais eu peur de sa vie. Plus encore de cette gaieté qu'il devenait folie. Il mettait son bonnet sur une oreille, puis sur l'autre, chantait l'Haggadah sur un refrain des rues et au récit des plaies d'Égypte, au lieu de tremper son doigt dans le vin pour en laisser tomber une goutte à terre, il en aspergea les demoiselles, ce qui causa des cris pour les collerettes perdues et de brillants éclats de rire. L'inquiétude de Sarah augmentait toujours et elle regardait avec terreur l'assistance dans un bourdonnement et un mouvement d'hommes qui oscillaient à leur aise d'un côté à l'autre, cassaient le pain, alors évidemment ce n'est pas du pain, c'est des pa'azim, vidaient les tasses, causaient entre eux tous au comble du bonheur. Arriva l'instant du souper. Tous se levèrent pour les ablutions et Sarah la première alla chercher pour le présenter à chacun des autres pendant qu'on lui verserait l'eau sur les mains, le grand bassin d'argent rehaussé de figures en or. Comme elle s'approchait du rabbin pour lui, donc le rabbin et son mari, pour lui rendre ce service, Il lui fit signe des yeux et se glissa dehors par la porte ouverte. Elle le suivit, il lui prit la main, l'entraîna bien vite par les rues obscures, puis, ayant franchi la porte de la ville, sur la route qui longeait le Rhin et conduisait à Bingen. Donc, Sarah demande à son mari de lui expliquer de quoi il s'agit. Le rabbin, incapable d'articuler un mot, remua les lèvres avant de s'écrier. « Vois-tu l'ange de la mort ? Il est là-bas, il plane sur Bar-Rar. Mais nous avons échappé à son glaive, loué soit le Seigneur. » Et il lui conta alors d'une voix encore tremblante comment, pendant la lecture de l'Agada, ayant jeté par hasard les yeux sous la table, il avait vu à ses pieds le cadavre ensanglanté d'un enfant. J'ai remarqué alors que nos deux hôtes tardifs n'étaient pas d'Israël. C'étaient eux, les impies, qui avaient apporté le cadavre, mais il m'était interdit de me trahir sous peine de hâter ma perte. Seule la ruse nous a sauvés. Loué soit le Seigneur. Voilà, donc Sarah et son mari et le rabbin donc échappent à un sort tragique. Ils arrivent à Francfort et là, Sarah apprend que ses parents ont été tués, donc elle s'évanouit. Et ensuite, ils rencontrent un Espagnol avec lequel ils ont une discussion théologique. Et c'est là peut-être qu'on voit ce que Heine a dit, que ça risquait de lui attirer la haine et le des chrétiens et des juifs, parce que cet Espagnol tient vraiment des propos extrêmement irréligieux, anti-religieux. Voilà, donc voilà, c'est tout, hein, c'est-à-dire ce récit est très court et donc Heine a renoncé à le réécrire, puisqu'apparemment il l'avait déjà écrit. Alors je voulais quand même dire que le choix des textes a été fait par Louis Lallois, qui a également écrit une préface et traduit tous ces textes. Voilà.
Mais on comprend qu'ils sont seuls à ce céder, le rabbin et sa femme ?
Non, il y a des assistants, mais oui, alors...
Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants ?
Non, alors ils n'ont pas d'enfants. Justement, il y a un petit passage où elle dit, où le rabbin rappelle que Abraham et Sarah ont eu un enfant très tard. Ouais. Voilà, je ne l'ai pas lu parce que ça n'a pas de rapport avec Agada.
Mais voilà, je t'oblige à en parler.
Voilà, oui, mais voilà, parce qu'apparemment, ils n'ont pas encore d'enfants. Bon, ils ne sont pas vieux, hein, mais ils n'ont pas d'enfants. Et donc, oui, alors effectivement, puisque... Alors, on ne sait pas s'il y a d'autres assistants, parce que sinon, ça veut dire qu'eux s'enfuient en laissant les autres à la merci de ces hérétiques ou de ces traîtres. Bon, c'est pas très clair, oui.
Alors, on est maintenant en plein céder, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est la manière dont les enfants, d'abord en Pologne, en Russie, apprenaient, et plus tard en Amérique aussi, quand on voulait élever les enfants vraiment dans le yiddish et dans l'hébreu en même temps. Alors, ce sont les fameuses quatre questions, les vier kashes, qui sont prononcées ici d'abord en hébreu, mais pas en hébreu comme on le prononce aujourd'hui, en hébreu avec vraiment ashkenaz, et en yiddish, puisque les enfants disaient des mots en hébreu qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Donc ensuite, ils se traduisent eux-mêmes. C'est ce fameux truc de l'autotraduction qui fait que...
Yiddish, qui
fait que, eh bien, ils sont bilingues, quoi. Ils sont bilingues hébreu, yiddish. Donc voilà les quatre questions intégralement, et c'est un document vraiment intéressant.
Et on va peut-être vous dire déjà... Freilichen Pesach,
Bauer Gut,
comme on dit en Alsace, et Shalom Aleichem, et à la prochaine fois.
Et merci Lucas.
Tate, ich will dir fragen, die vier Kasches, Tate, Tate.
Ma nishtano, ha'alayla hazeh. Ma nishtano, ha'alayla hazeh.
Die erste Kashi is, shebechal ha'alaylois, on oichlin chometz umatzeh, alaylo hazeh kuloy matze alle nacht von der ganz jo essen mir sei ho mit sei matze ob die nacht von Pesach essen mir nur matze
man ist dann no man ist dann no halleluja haze man ist dann no man ist dann no halleluja haze
Die zweite Kashi ist Shebechol Hallelois On Euchlin Sheor Yerokois Halayla Hazeh Mor Alle Nech von der ganzen Jahr Essen mir alle Legrinsen Ob die Nacht von Pesach Essen mir nur bittere Grinsen
Man ist dann no, man ist dann no, Halleluja Haze, man ist dann no, man ist dann no, Halleluja Haze.
Die dritte Kashi ist, Shebechol Hallelois, Ein Onu Matpilin, Afilu Pamechos, Halleluja Haze. Alle Nacht von der ganzen Jahr trunken wir viele einmal nicht. Aber die Nacht von Pesach trunken wir ein, zweimal. Die erste Mal rein in Geräusches und die zweite Mal a Zieberle in Salzwasser.
Man ist dann no, man ist dann no, Halleluja Haze,
Halleluja Haze,
man ist dann no, man ist dann no, Halleluja Haze.
Die vierte Kashi ist, Shebechol Hallelois, on Euchlin, bein Yoishvin uvein Misubin, Halleluja Haze. Kulonu misubin Alle Nacht von der ganzen Jahr Essen mir sei sitzen dick sei ungelehnt Ober die Nacht von Pesach Essen mir nur ungelehnt
Man ist dann no, man ist dann no Halleluja Haze Man ist dann no, man ist dann no Halleluja Haze Halleluja Haze
But you boy did it for yam the bum 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 bum
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.